France Culture. Grand reportage, Mathieu Laurent.
La décision gouvernementale de reprendre la prison à GeForest, même de façon temporaire, montre que l'expérience de la privatisation d'une prison a échoué.
Le système britannique est le contre-exemple parfait en matière de privatisation du système ferroviaire. Tout ce qui peut aller mal dans une privatisation est illustré au Royaume-Uni.
Je ne crois pas que c'est privé ou public. Je crois que la plupart des secteurs nationalisés profiteraient de plus d'implication du secteur privé. Quand le secteur privé peut faire mieux que le public, il va quasiment toujours le faire.
Virage, retournement de tendance. 25 ans après le coup de poing sur la table de la Dame de Fer et une vague de dénationalisation, le mot privatisation n'existait pas. 25 ans après, le Royaume-Uni semble faire machine arrière. Retour dans le giron public pour l'East Coast Main Line pour la troisième fois en 10 ans. D'établir des cantines scolaires au quai de la gare de King's Cross, nos voisins britanniques s'impatientent. Comment restaurer d'anciens services publics abîmés, inopérants et chers? Crise systémique, modèle économique en mutation, est-il pertinent d'y voir la facture des années Thatcher? Fallait-il laisser entrer le marché dans des monopoles naturels? Les détracteurs du privé à outrance pointent des secteurs d'activité fragmentés, sans structure d'évaluation indépendante. À quand le retour de l'État stratège, maître de la régulation? Faut-il pour autant exclure le privé? Le public a été co-réalisateur d'un sous-investissement chronique. Quelle plus-value politique pour les travaillistes qui appellent à une vague de renationalisation? Enfin, quels enseignements tirer de ces inflexions économiques outre-Manche pour un gouvernement français qui, via la loi Pacte, prépare la mise en concurrence sur le rail et son désengagement d'aéroports de Paris, Engie ou encore la Française des Jeux? Autant de questions que nous aborderons dans ce numéro de Grand Reportage. Renationalisation en Grande-Bretagne, State is back. Un reportage de Marion Lourd. Deux invités pour nous accompagner. Nous sommes en ligne avec Pauline Schnapper, professeure de civilisation britannique à l'université Sorbonne Nouvelle. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Et puis à mes côtés en studio, Christophe Rameau. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeur à Paris 1 et membre des économistes atterrés. Et bien sûr, en duplex de Londres, Marion Lourd. Bonsoir Marion.
Bonsoir à tous.
Marion, comment avez-vous choisi d'illustrer ce phénomène?
Eh bien, sans a priori, je suis allée à la rencontre des acteurs, des usagers. Les déprivatisations, si j'ose dire, se font pour des raisons différentes. Pour le rail, un manque de rentabilité. Pour la prison, une véritable crise. Pour les cantines, la faillite d'un énorme prestataire privé qui faisait aussi, par exemple, de la construction d'écoles ou du ménage. Il y a quand même un point commun entre ces différentes histoires. Pour l'instant, le retour à une régie publique directe semble soit apprécié par les usagers et les salariés, soit il leur est indifférent. En tout cas, je n'ai rencontré personne qui s'y oppose. Et si on regarde les sondages récents, entre 75 et 85% des 2000 interrogés souhaiteraient voir les entreprises de l'énergie et du transport revenir directement dans le giron de l'État.
Marion, un mot des déclarations politiques?
Oui, la dernière en date, c'est cet appel du Parti travailliste à renationaliser les trains. Jérémy Corbyn a répété cette revendication de l'opposition il y a quelques jours à peine, 1er janvier, jour d'augmentation des prix des tickets. Les travaillistes ont un programme massif de renationalisation. Côté conservateur, pas de déclaration grandiloquente sur ce retour de l'État. Il se fait au coup par coup, un peu à la sauvette, car les Tories estiment traditionnellement que le privé fait mieux, qu'il a plus d'argent pour investir sans creuser la dette publique. Le fait que les conservateurs aillent à l'encontre de cette conviction peut certainement poser question. Mais commençons peut-être au plus près du terrain et des gens dans une cantine scolaire de campagne.
Eh bien, sans tarder, on écoute votre reportage, Marion.
Il y a 85 enfants qui sont scolarisés ici. Alors, je travaille avec le conseil local d'Oxfordshire depuis un an. J'ai commencé quand Carillion s'est arrêté, c'est ça, il y a un an.
Thank you.
Je m'appelle Kevin Payat, je suis le responsable du traiteur pour les cantines scolaires des écoles primaires du conseil local d'Oxfordshire. On s'occupe de 70 écoles primaires. Une partie de mon rôle, c'est d'améliorer l'offre dans les écoles pour que les enfants aient des déjeuners équilibrés et sains et qu'ils soient capables de mieux étudier l'après-midi. Carillion a été déclaré en faillite le 15 janvier 2018. Est-ce que ça a été un choc que ça arrive si vite après Noël? Oui, je pense. Avant Noël, on nous avait dit à tous de ne pas nous inquiéter, que rien ne changerait. Et ensuite, mi-janvier, un lundi matin, à 7h du matin, vous entendez à la radio que Carillion n'existe plus alors que vous êtes en route pour le travail. Moi, le 15 janvier 2018, j'ai arrêté de travailler pour Carillion et le 16, j'ai commencé à travailler pour le conseil local d'Oxfordshire. Ils nous ont aidés à chaque étape du processus. Dès le départ, ils nous ont dit qu'ils allaient veiller sur nous et nous employer. Quand les gens sont venus travailler le lendemain, ils ont fait un super job. Ils ont nourri les enfants, ça a été une transition sans heurts. Je suis sûr qu'en arrière-plan, certains pédalaient comme des fous pour que ça se passe comme ça. Mais beaucoup de gens ont travaillé dur pour en arriver au point où on en est. C'est un sentiment très étrange de travailler un jour pour Carillion et le lendemain pour une autorité locale. Ce sont deux points de vue complètement différents. L'un est une entreprise qui essaye de faire de l'argent, l'autre, une organisation de services.
Et qu'est-ce qui est différent entre le conseil local et Carillion ?
Il y a beaucoup plus de transparence. Nous sommes impliqués dans la prise de décision. Ce que je trouve rafraîchissant, c'est qu'ils nous tiennent au courant de ce qui se passe chaque semaine. Mais aussi, on nous considère comme une partie de l'équipe du conseil local, alors qu'avec Carillion, on n'était pas vraiment pris en compte. On a plus de contrôle sur le développement des menus et on travaille au plus près des écoles, alors qu'avant, une partie de cette activité était dictée par une équipe de restauration depuis Manchester. Mais maintenant, nous sommes beaucoup plus impliqués. Et c'est plus facile de travailler pour une autorité locale. Il y a moins de méfiance chez les gens. Alors qu'avant, ils pouvaient penser que nous étions une organisation destinée à faire du profit avec pour seul but d'augmenter ce profit. Ce n'est absolument pas le cas dans une autorité locale. Le but, c'est de s'assurer que les enfants aient un repas équilibré. Maintenant, c'est mieux. Le personnel se sent plus en sécurité et nous avons l'impression de faire un travail qui a du sens. En plus, dans les 6 derniers mois de Carillion, nous avions conscience qu'ils essayaient d'éliminer leurs dettes et de contrôler leurs coûts. Donc, ils étaient beaucoup plus concentrés sur le fait de nous faire sortir, parler aux parents. Je ne dirais pas faire de la vente agressive, car c'est interdit, mais être très très rentre-dedans. Si un enfant fait tomber son repas, il faut lui en donner un autre. On ne peut pas lui dire « tu n'en auras pas d'autre puisque tu l'as fait tomber ». Mais on ne peut pas le faire payer deux fois. Nous étions mis sous pression pour prendre des décisions contestables. Cela dit, nous avons pleinement conscience que l'autorité locale utilise de l'argent public. Cet argent doit donc être utilisé avec sagesse. On ne peut pas juste gaspiller de l'argent public. Mais il n'y a pas besoin de faire des profits sur tout. Et on sait que s'il y en a un de profit, l'argent va revenir à l'école. La restauration scolaire en école primaire, c'est un service qu'on fournit aux enfants. Le sujet ne devrait pas être combien me rapporte un déjeuner scolaire ou est-ce que je peux acheter un yacht encore plus grand.
Je m'appelle Gemma Stringer, je suis la responsable de la cantine ici à Dorchester. Ici, c'est l'école St. Birinus de Dorchester dans l'Oxfordshire. L'école compte seulement 85 enfants à l'heure actuelle, donc elle est relativement petite. Oui, je m'occupe de la cuisine, je prépare leur repas tous les jours. Aujourd'hui, il y a des saucisses, du fromage et des haricots soufflés, de la crème de pommes de terre et de légumes avec un taco végétarien ou du couscous méditerranéen. Et puis, il y a du crumble avec de la crème en dessert. Moi, ça fait 3 ans et demi que je travaille ici. Avant, ici, ils servaient seulement de la nourriture toute préparée. Mais à partir du moment où je suis arrivée, les repas ont été faits sur place, tous les jours. Je travaillais pour l'entreprise Carillion. Et la première information que j'ai eue, c'est un court email qu'on a reçu. Ensuite, il y a eu évidemment les reportages à la télé, dans les journaux. Ici, nous avons eu plutôt de la chance. On nous a dit presque immédiatement, ça va aller. Le conseil local d'Oxfordshire va prendre les choses en main et ça continue comme d'habitude. Alors Carillon nous a donné un dernier salaire et puis le mois suivant, nous avons été payés par le conseil local. Pour ma part, je n'ai eu aucun problème. Il n'y en a pas eu non plus dans les livraisons de nourriture. Tout ça a été pris en main. Dans le cas contraire, ça aurait été un vrai cauchemar.
Et votre travail, il est différent? Il a changé?
Ah oui, en effet. On m'a fait un nouveau contrat, c'est plutôt bien. On est payé au prorata, donc on est payé maintenant pour plus de semaines qu'on l'était quand c'était Carillon. Ce qui signifie qu'on gagne un peu plus d'argent pour le même travail. Et ça, c'est super. Et puis nous avons aussi un menu légèrement différent. J'ai l'impression qu'on écoute plus les retours des usagers. L'avis des enfants, des parents, notre avis à nous en tant que cuisiniers sur les choses qui marchent et qui ne marchent pas. Maintenant, notre menu est plus solide. C'est un changement positif, je trouve. Aujourd'hui, il y a 3 choix dans le menu de la cantine. Avant, il n'y en avait que 2. Et puis il y a un déjeuner genre pique-nique. On n'avait pas ça avant. J'ai l'impression qu'on nous donne beaucoup plus d'informations aussi aujourd'hui. C'est beaucoup plus clair, parce qu'on est en quelque sorte une plus petite structure et qu'avant, l'entreprise essayait de filtrer toute l'info. Moi, j'apprécie assez le changement qui a eu lieu, en fait. C'est bien de travailler ici. Et il n'y a jamais eu de problème avec le changement de direction. Moi, je craignais qu'il y ait peut-être des petits problèmes avec la paye, mais il n'y en a pas eu du tout. Alors, sincèrement, ouais, c'est plutôt une bonne surprise.
Le fait que les autorités locales, le public, aient repris en main la cantine scolaire, d'après vous, c'est une bonne chose?
J'ai l'impression que tous les services, comme le nettoyage, la préparation des repas, particulièrement dans les écoles qui sont liées de près aux autorités locales, tout ça c'est mieux quand c'est public. Parce que si c'est utilisé pour faire du profit, ça ne marche pas. Les cantines ne feront jamais d'énormes profits. Je veux dire, personne ne deviendra millionnaire en vendant des repas de cantine. Il faut que ces cantines fournissent du travail aux gens du coin. Il faut que les enfants puissent manger de la nourriture de qualité à un prix raisonnable. Et dans ce sens, si quelqu'un essaie de faire beaucoup d'argent, ce n'est probablement pas le secteur idéal pour le faire.
Je suis Alexandra Bellet, je suis la directrice des investissements et des biens au conseil d'Oxfordshire. Avant la faillite de Carillon, nous avions déjà repéré depuis 6 mois que quelque chose n'allait pas bien. Ils n'étaient pas dans les temps, ils dépassaient leur budget, tout était chaotique. Nous étions donc en négociation, déjà, pour rompre notre contrat avec eux dans le domaine de la construction. Et ensuite, nous devions mettre fin à notre relation avec eux dans le domaine des repas scolaires et du ménage. Donc le 15 janvier dernier, quand ils ont été mis en liquidation, nous avons mis en place notre plan d'urgence qui était déjà prêt.
Qu'est-ce que ça a coûté de mettre fin à ce contrat et de faire les choses en interne plutôt que via la sous-traitance?
Ça n'a rien coûté de rompre ce contrat. Ce qu'il y a en revanche, c'est que plus nous explorons ce que Carillon a fait, plus nous trouvons qu'il y a des choses à rectifier. Et nous savons que c'est nous qui allons devoir prendre en charge ce coût. Dans le secteur de la construction, comme toujours sur ce genre de projet, il y a des malfaçons et on doit résoudre ces problèmes. Mais c'est nous, le conseil local, qui devons prendre en charge ce coût, alors que c'est l'entreprise Carillon qui aurait dû supporter le surcoût.
Mais le conseil local, il travaillait avec eux depuis longtemps?
Depuis 5 ans, oui. Il faut dire qu'à l'époque, dans toutes les institutions publiques, il y avait l'idée que passer par des sous-traitants privés permettait de passer de plus gros contrats et donc de faire des économies d'échelle. Mais évidemment, ça dépend de la performance que réalise le secteur privé. Et dans ce cas, ils n'ont pas rempli leurs objectifs.
Est-ce qu'il y aurait un intérêt à passer un nouveau contrat avec un autre sous-traitant privé?
Dans le domaine de la construction immobilière, ça reste très intéressant, parce qu'on ne peut pas, en tant que conseil local, réaliser des opérations de cette échelle. Nous n'avons pas les liquidités qu'ils ont à leur disposition. En revanche, pour des activités qui reposent plutôt sur l'humain, comme les repas scolaires, l'avantage de les gérer en direct, c'est qu'on peut mieux contrôler. Donc on peut prévoir les risques, et là se pose vraiment la question, préfère-t-on viser d'hypothétiques économies d'échelle, ou est-ce mieux de faire les choses nous-mêmes? C'est une des choses sur lesquelles on va se pencher. Et ça dépendra aussi de ce que choisiront nos écoles, car elles ne sont pas obligées de nous choisir, nous.
D'après vous, il n'y a aucun domaine où le secteur privé ne devrait pas intervenir?
Je crois qu'il faut toujours poser la question du risque. Dans le cas des repas scolaires, le pire qui pouvait arriver, c'est qu'on avait des pompiers prêts à intervenir et à distribuer des pique-niques. Dans ce genre de situation, on se demande toujours, quel est le risque pour le client? Est-ce que c'est un risque acceptable? Serait-on capable d'intervenir si besoin, si les choses ne marchaient pas pour les clients?
Est-ce que vous avez réfléchi à des nouvelles règles qu'il faudrait appliquer pour éviter une nouvelle affaire Carillon?
Nous avons de meilleures informations et un meilleur réseau pour arriver à savoir quelle est la performance financière des entreprises. C'est important car c'est ce genre d'informations qui nous a permis de nous éloigner de Carillon suffisamment tôt. La façon dont les contrats sont conçus rend leur interruption assez difficile. C'est nous qui rédigeons les contrats, donc il faut des mécanismes très clairs prévoyant ce qui va se passer s'ils ne remplissent pas leurs engagements. Ça doit nous permettre d'avoir le choix.
Au niveau national aussi, les pouvoirs publics font leur retour. En août dernier, le gouvernement conservateur a dû aller contre ses instincts et reprendre la main en urgence à la prison de Birmingham.
La prison de Birmingham a une histoire longue et chaotique. En 2016, elle a été le théâtre d'une émeute qui a laissé quatre ailes du bâtiment très abîmées. 500 délinquants ont été déplacés après les pires perturbations dans une prison depuis des décennies. Depuis, les inspecteurs disent que les conditions se sont détériorées jusqu'à la crise, ce qui a forcé le gouvernement à reprendre la gestion de la prison confiée à l'entreprise G4S.
L'inspecteur des prisons avait trouvé l'établissement de 1200 détenus dans un état plus que désastreux. Cet inspecteur a la parole rare et influente. Nous avons pu le rencontrer dans un bâtiment moderne, un immeuble gouvernemental du quartier de Canary Wharf à Londres.
Peter Clark, je suis l'inspecteur en chef des prisons pour l'Angleterre et le Pays de Galles. Quand nous avons inspecté la prison de Birmingham l'an dernier, nous l'avons trouvée très violente. Elle était infestée de vermine, de rats, de cafards. Les niveaux de violence étaient exceptionnels. Et il y avait beaucoup trop de drogue dans la prison, ce qui renforçait cette violence. Birmingham est un très mauvais exemple. Il y a eu une émeute dans la prison à la fin de 2016 et malheureusement depuis, les choses ont beaucoup empiré. Nous avons découvert une prison fondamentalement dangereuse, sale et pleine de drogue.
Qu'avez-vous fait quand vous avez découvert ça?
Ce que j'ai fait, c'est d'écrire au ministre en charge des prisons. Je lui ai raconté ce que nous avions trouvé sur place, je lui ai parlé de ces conditions réellement épouvantables. Et ce qu'ils ont fait, presque immédiatement, c'est que le gouvernement a repris les commandes de la prison confiée jusqu'ici à l'entreprise privée G4S.
Donc maintenant, la prison est publique.
Maintenant, la prison est gérée par le gouvernement, bien qu'elle soit toujours censée être soumise à appel d'offres. Et on verra en temps voulu si la gestion de la prison revient, oui ou non, à une entreprise privée.
Est-ce que vous comprenez comment la situation est devenue aussi critique à la prison de Birmingham?
Écoutez, ce que j'ai écrit dans ma lettre au ministre, c'est qu'il fallait une forme d'évaluation indépendante pour comprendre pourquoi les choses en étaient arrivées là. Le Parlement britannique va se pencher très prochainement sur la question et j'espère que les éléments qu'ils vont obtenir nous permettront d'avoir quelques réponses.
Que peut faire le gouvernement pour améliorer la situation? Vous l'avez dit, il y a de la drogue, des violences, etc.
Ce que nous avons vu là-bas, c'est que le personnel n'était pas complètement aux commandes de la prison. Il faut donc restaurer l'ordre, reprendre le contrôle. Et puis, il va falloir améliorer les conditions de vie aussi, réparer les fenêtres cassées, se débarrasser des rats et juste nettoyer la prison.
Et en tant qu'inspecteur des prisons, vous pensez que c'est une bonne chose que le gouvernement reprenne les commandes?
Écoutez, ce n'est pas à moi de juger. Moi, je juge ce que je vois quand je visite les prisons. S'il y a des améliorations la prochaine fois qu'on y va, alors je pense que je pourrais dire « c'était une bonne chose ». Ce qui m'attriste, c'est que les choses aient dû atteindre ce niveau critique. Qu'est-ce qui a permis d'arriver à une situation aussi dégradée? C'est sans doute la pire prison que j'ai jamais vue. À mon avis, il faut des investissements significatifs. Le gouvernement a annoncé qu'il débloquait de l'argent, et bien sûr, c'est bienvenu. Mais je crois que ça va demander beaucoup d'argent, et sans doute pas mal de temps, pour restaurer des conditions décentes.
Combien y a-t-il de prisons au Royaume-Uni?
Autour de 130 prisons en tout, en Angleterre et au Pays de Galles.
Vous avez vu une différence entre les prisons gérées par des entreprises privées et celles qui le sont par le gouvernement ?
Je crois que ce serait une erreur de suggérer que les prisons privées ou les prisons publiques sont mieux que les autres. J'ai vu de bonnes prisons publiques et de mauvaises prisons publiques. J'ai vu de mauvaises prisons privées et des très bonnes. Tout dépend du genre de bâtiment, du type de public qui fréquente la prison et en particulier de la qualité de la direction de chaque établissement.
Loin du quartier d'affaires de Canary Wharf, à Dalston, dans le nord-est de Londres, se trouvent les locaux exigus de l'association Howard League for Penal Reform, qui milite pour la réduction du nombre de prisonniers. Le porte-parole de l'organisation, Andrew Nilsson, observe attentivement le cas de la prison de Birmingham.
Il est trop tôt pour dire que la prison est plus sûre qu'elle ne l'était. Mais je pense qu'elle va l'être pour une raison intéressante et toute simple. L'une des premières choses qu'a fait le gouvernement quand il a pris les commandes à Birmingham a été de sortir 300 détenus de la prison et de les mettre ailleurs et d'augmenter le personnel de la prison.
Combien de prisons au Royaume-Uni sont gérées par des entreprises privées ?
10% seulement des prisons sont gérées par des entreprises privées. Mais presque toutes les prisons construites depuis les années 90 sont dans le giron du secteur privé. Ce qui est intéressant avec la prison de Birmingham, c'est qu'elle a été la première privatisée. Donc plutôt qu'une prison nouvellement construite, gérée par le privé, c'est une prison anciennement publique dont les rênes ont été confiées à G4S. C'est notable parce que ça a été la première prison publique à passer aux mains du privé. La décision gouvernementale de reprendre la prison à G4S, même de façon temporaire, on ne sait pas encore à ce stade, montre que l'expérience de la privatisation d'une prison a échoué. En partie, nous pensons que c'est parce que le secteur privé n'a pas de solution magique au problème des prisons. Il fait seulement les choses pour moins cher. Mais ce n'est pas du tout la réponse au problème d'un système pénitentiaire surpeuplé.
De votre point de vue, est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui dans la façon dont sont gérées les prisons par le privé par rapport au public ?
Il y a quelques années, on vous aurait dit que la prison privée emploie moins de gens, que leur personnel est moins bien payé, qu'il a moins d'expérience. Cependant, il y a quelques années, le secteur pénitentiaire a été soumis à un programme de réduction des coûts dans le cadre de la cure d'austérité décidée par le gouvernement. À ce moment-là, les prisons publiques se sont comparées à une sorte de niveau qui équivalait aux prisons privées pour réduire leurs coûts. Ça a créé beaucoup de problèmes. Mais au final, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est très difficile de distinguer les prisons privées des prisons publiques, comme on aurait pu le faire avant cette campagne de réduction des coûts.
Ce que vous dites, c'est que le gouvernement et le secteur public ont en quelque sorte imité la façon de faire du privé, c'est ça ?
Oui, de bien des façons. Pour rendre justice aux établissements privés, il y a probablement un domaine où on voit encore une différence, et c'est favorable au privé. C'est que la technologie dans le privé est meilleure. Par exemple, vous avez plus de chances de voir des téléphones dans les cellules plutôt que dans les parties communes, ce qui permet aux prisonniers de ne pas devoir faire la queue pour appeler. Il y a aussi plus de tablettes que les prisonniers peuvent utiliser pour choisir leur menu ou leurs heures de visite. Les prisons publiques sont plus vieilles, souvent installées dans des bâtiments de l'époque victorienne ou plus vieux encore. Elles n'ont donc tout simplement pas ce genre de technologie.
Finalement, ce que vous dites, c'est que ça n'a pas permis de faire les économies nécessaires.
Je pense que toute économie réalisée par le recours au secteur privé est en quelque sorte une fausse économie. Birmingham a été un exemple fort de ça, parce que G4S a certes accepté de payer les coûts relatifs à l'émeute, mais il y a quand même eu émeute. Et ça a abîmé beaucoup la prison. La police a dû intervenir. Les économies réalisées dans les années précédant ces événements ne représentent pas grand-chose par rapport à ça. Et le coût pour ramener une prison comme ça dans le secteur public est sans doute assez important. Les partisans des privatisations au sein du gouvernement vous diraient qu'ils veulent économiser de l'argent et introduire de la concurrence, et que ça a amélioré les performances dans le public et le privé. On n'a pas beaucoup de preuves de ça.
Thameslink service to Horsham.
La force publique à la rescousse face à l'échec du privé, c'est arrivé à la prison de Birmingham. C'est arrivé aussi sur la East Coast Main Line, ligne ferroviaire qui relie Londres à l'Écosse. Son opérateur, Virgin Stagecoach, a laissé les commandes à l'État en mai dernier, faute d'atteindre la rentabilité qu'il visait. Je me trouve sur le quai numéro 3 de la gare de Peterborough, sous la pluie. Le train en direction de London King's Cross est attendu à 11h07. Il doit arriver à 11h09. Il a donc 2 minutes de retard. Ce train, c'est un train LNR. C'est la nouvelle compagnie, celle qui a remplacé Virgin et Stagecoach, les anciens opérateurs du train. Donc j'attends ce train en direction de King's Cross, sur lequel il y a un agent de la compagnie qui porte encore un gilet rouge avec marqué Virgin Trains et n'a pas encore changé d'uniforme pour porter celui de la nouvelle compagnie qui est opérée par l'État. Vous pouvez me dire votre nom ?
Neil.
Je suis directeur logistique.
Est-ce que vous avez remarqué que quelque chose a changé l'été dernier ?
Il y a eu un changement de nom. Je crois que Virgin a juste perdu la franchise.
Est-ce que vous avez eu une explication sur le changement de nom ?
Non. Il n'y a rien eu d'annoncé au client, donc je ne sais pas s'il y a eu un appel d'offres. Je n'ai pas vu de différence dans le service. Il y a toujours le wagon-bar, le personnel qui passe avec un petit chariot. Le service est globalement le même. Ce sont des trains réguliers, sont plus ou moins à l'heure, donc c'est bien. Parfois je paye 55€ un trajet, parfois 110, selon si c'est l'heure de pointe ou pas. Le moins cher, c'est peut-être 40€, le plus cher, 135, donc hors des heures de pointe, c'est un prix raisonnable.
Vous pouvez me dire votre nom ?
Janice, je descends juste quelques jours pour voir ma fille. On peut avoir des trains rapides ou plus lents. Les plus rapides le sont vraiment. On peut rejoindre Londres en 50 minutes.
Qu'est-ce que vous pensez des prix ?
Ça dépend. Je fais attention, donc je réserve à l'avance et je réserve les voyages les plus tardifs pour économiser et réserver sur des trains bien spécifiques. Donc, si vous savez ce que vous voulez et que vous ne le faites pas à la dernière minute, ce n'est pas trop mal.
Et c'est un bon service, ils sont à l'heure en général ?
Oui, mais j'évite de voyager le soir. Le soir, c'est le plus difficile.
Je suis John Stittle de l'école de commerce d'Essex, Université d'Essex au Royaume-Uni. Nous sommes actuellement à la gare de King's Cross dans le nord de Londres. Ce train que nous regardons, c'est un classe 43, un train diesel. Il a 35 ou 40 ans. Ces trains ont été restaurés, ils ont duré longtemps, ils étaient bien construits, fiables, mais ils ont vu des jours meilleurs.
Il y a quelques mois, les mêmes trains avaient une étiquette Virgin, c'est ça ?
Oh oui, les trains sont les mêmes. Ils ont commencé dans le giron public. Au moment de la privatisation, ils sont passés à une entreprise appelée GNER. Après, ils sont passés à une autre entreprise appelée National Express East Coast. Après, ils sont revenus sous le contrôle du gouvernement. Après, ils ont été revendus à une alliance entre Stagecoach et Virgin. Et enfin, depuis cet été, ils sont de nouveau gérés par l'État. Il y a donc eu énormément de propriétaires successifs et chaque nouveau propriétaire repeint le train et met son logo. C'est un peu risible en fait. Ces trains deviennent de plus en plus vieux et ils ne font qu'être repeints après chaque nouveau propriétaire.
Donc maintenant la ligne est gérée par l'État, la compagnie s'appelle LNER. Est-ce que ça marche mieux qu'avant ?
Pour le moment, ça a l'air d'aller. Et ce que l'on sait de l'époque où c'était déjà public, c'est qu'ils avaient à s'acquitter d'un péage et l'argent revenait au gouvernement. Donc c'était un gain pour le contribuable. De la même manière, quand c'était public autrefois, la ponctualité s'était améliorée. Les études de satisfaction ont montré d'énormes améliorations par rapport aux opérateurs privés. Il n'y a aucune raison de croire que ça ne se reproduise pas. Le système britannique est le contre-exemple parfait en matière de privatisation du système ferroviaire. Tout ce qui peut aller mal dans une privatisation est illustré au Royaume-Uni. Toute l'industrie est éclatée entre 120 entreprises différentes. Le gros problème, c'est que toutes ces entreprises fonctionnent entre elles par un réseau complexe de contrats pour arriver à interagir et commercer. Et c'est ça le problème. La fragmentation fragmentation. À chaque étape de ce processus complexe, chaque entreprise veut faire un profit. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que depuis la privatisation, les subventions d'État ont quasiment doublé. Pour ce qui est des tarifs non régulés, les opérateurs ont essayé autant que possible d'en tirer profit. Le résultat, c'est que les contribuables ne sont pas contents, les passagers non plus. C'est cher, inefficace, désorganisé et sans une tête pensante au sommet. C'est l'incarnation d'un échec dans la privatisation. Il faudrait dire au gouvernement français, venez voir le système britannique et vous comprendrez pourquoi ça ne marche pas. Et je suis sûr que si Macron poursuit son projet de libéraliser le réseau ferroviaire français, il gardera en tête cette expérience britannique.
Le Parti conservateur au pouvoir déprivatise parfois au coup par coup, mais l'opposition travailliste, elle, défend un programme massif de nationalisation du gaz à l'eau, de l'électricité au chemin de fer, programme exposé notamment lors du congrès de rentrée travailliste à l'automne dernier.
Je m'appelle Andy MacDonald, je suis député de Middlesbrough et ministre fantôme des transports. La privatisation ratée, fragmentée et fracturée s'effondre. Les franchisés ont visé trop, ils ont promis trop d'argent pour diriger ces services et conséquence, ils ont échoué. Et l'une de nos lignes les plus importantes, la East Coast Main Line, est ramenée dans le giron public pour la troisième fois en 10 ans. Donc il y a eu une succession d'échecs d'entreprises privées. C'est ce qui s'est passé. Ce que nous disons, nous, c'est qu'il faudrait réunifier tout le système, voies ferrées comprises, dans une organisation unique, cohérente. Comme ça, on n'aurait pas toute cette fragmentation où la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite. C'est aussi une façon de freiner la recherche du profit dans ce système et d'investir l'argent ailleurs. C'est un service public.
Combien de temps et d'argent vous faut-il pour mettre en œuvre ce projet ?
Eh bien, si on attend que les franchises se terminent, tout simplement, mettre fin à ces contrats de franchise ne coûtera rien du tout. Il y a 18 franchises qui ont toutes des durées différentes. Elles vont toucher à leur fin, on les ramènera dans le giron public. Notre ambition, c'est que l'État reprenne le contrôle de toutes ces franchises dans les 5 ans. Parce que le public l'exige. Ils en ont assez de ce bazar privatisé où toutes ces entités séparées ne se parlent pas, où personne n'endosse de responsabilité, où personne ne doit répondre de rien, ce qui laisse aux passagers un service ferroviaire médiocre.
Ce que vous me dites, c'est que ça ne vous coûterait pas d'argent et que vous n'auriez pas besoin d'augmenter les taxes pour renationaliser le système.
Non, absolument pas. En termes financiers, on ferait en fait des économies en réduisant la fragmentation et la multiplicité d'organisations impliquées. Vous vous débarrassez donc de ce coût, du coût de la mise en place du système des franchises. Tout ça, ça coûte immensément cher. On peut dire avec confiance que dans les 5 premières années d'un gouvernement travailliste, en faisant revenir ces franchises dans le giron public, on ferait une économie de plus d'1 milliard d'euros rien que pendant les 5 premières années. Donc il ne s'agit pas d'un coût, mais d'une économie.
Que diriez-vous aux Français qui vont plutôt dans la direction inverse ?
Ah, ça me brise le cœur. Faites attention à ce que vous souhaitez. Et si vous pensez vraiment à un système de franchise, si vous pensez à privatiser, jetez un œil de l'autre côté de la Manche et voyez le désordre que ça a créé chez nous.
Mais la concurrence, c'est une directive européenne, c'est ce que dit Emmanuel Macron.
Absolument, mais vous savez, ça n'a pas empêché la SNCF et la Deutsche Bahn d'être dominantes sur leur territoire. Et elles ont avec succès plaidé devant la Cour européenne de justice le fait de garder certains services. Donc, je demande juste aux gens de penser à leur propre volonté politique.
Je suis Emily Yates de l'Association des usagers britanniques du rail.
Comment est-ce que ça aiderait les passagers, cette nationalisation du rail ?
Ça ne réglera pas tout d'un coup, c'est sûr, hein, car il y a beaucoup de problèmes liés au manque d'investissement sur une longue période. Mais c'est certainement par ça qu'il faut commencer. D'abord parce que nous devons avoir un pilote pour tout le système ferroviaire dans tout le pays.
Et ce serait l'État, d'après vous ?
Oui, ça semble la meilleure solution. Après, il faut penser à la gouvernance régionale, à la décentralisation aussi. Il faut que ce soit intégré verticalement sous une même autorité, mais aussi à portée de main pour que les régions puissent se gouverner elles-mêmes, que le système ferroviaire ne soit pas trop contrôlé par le gouvernement central, car on ne veut pas non plus que l'État ait la mainmise. Donc il faut de l'investissement et de la démocratie, et je crois que ce sont les deux choses les plus importantes pour les passagers.
En tant que passager, quel est le problème avec le système ferroviaire privatisé ?
La fragmentation, c'est vraiment le plus gros problème. Imaginez que vous voulez voyager à travers le pays, vous pouvez aller sur Internet, trouver des tas de versions différentes du même voyage en cherchant le prix le plus bas. C'est vraiment pas simple. Il y a aussi toutes sortes d'effets pervers, où ce que veut Network Rail, entreprise publique qui gère les voies, peut aller à l'inverse de ce que veut un opérateur privé et de ce que veulent les gens. Rien de tout cela n'est aligné. Donc la fragmentation doit s'arrêter. Ça crée toutes sortes de problèmes. La question, c'est aussi qui finance le système ferroviaire. Quel est l'équilibre entre le contribuable et le passager qui achète un ticket? Car si on accepte le fait que c'est une infrastructure importante, aussi importante que la santé et l'éducation, si à ça on ajoute une nationalisation, une forme éclairée de nationalisation, ça pourrait permettre de faire baisser les tarifs. Parce que, comme vous le savez, ce sont les plus chers d'Europe et c'est un vrai problème.
Mais si vous, vous êtes un contribuable et que vous ne prenez pas le train, vous ne voulez pas payer pour tout ça.
C'est une position idéologique parce que le train, comme tous les services publics, a un effet massif sur l'économie locale, sur les affaires, sur des tas de choses. Donc je pense que la participation des contribuables devrait être plus élevée à plein de niveaux.
Ici, le train est très cher, il y a souvent des retards. Est-ce que c'est lié ou pas à la privatisation ?
On doit résoudre des problèmes vieux de plusieurs décennies et en même temps faire rentrer le système ferroviaire dans le 21e siècle. C'est une tâche énorme. Et avoir une tête pensante, une stratégie, la démocratie locale et en plus se débarrasser des questions de profit et des volontés contradictoires au sein du système, je pense en effet que ce serait un progrès, un pas en avant vers une solution. Mais ce ne sera pas facile.
Mon nom c'est James Price, je suis porte-parole de l'association des contribuables. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Ce sont seulement les trains et les compagnies qui sont privatisées. Toutes les voies, la signalisation et les gares sont encore publiques. Deux tiers des retards qu'il y a sur les voyages en train viennent de Network Rail, le gestionnaire des voies, qui est public.
Selon les sondages, une large majorité de citoyens réclament le retour de l'État et des collectivités pour assurer les services publics, mais au pays de Margaret Thatcher, la majorité conservatrice refuse d'assumer un tournant et les sceptiques restent nombreux à l'image de cette association des contribuables.
Les gens de gauche qui y croient au socialisme ont une sorte de pensée magique. Ils croient que si les compagnies qui gèrent la distribution d'eau sont publiques, il n'y aura plus de fuite. Ils pensent que si les compagnies ferroviaires sont nationalisées, il n'y aura plus de retard. En fait, l'expérience a montré dans le passé que c'était souvent pire. Et certains coûts et problèmes qu'on voit aujourd'hui dans le secteur ferroviaire sont dus précisément à un héritage du passé. On doit encore payer plus pour rattraper le retard, le sous-investissement chronique qui date de l'époque où tout était nationalisé et on ne pouvait rien financer. Donc ce qu'on doit faire, c'est des réductions d'impôts pour les petites entreprises, pour qu'elles puissent participer aux appels d'offres et se lancer sur ces marchés et rendre la concurrence plus efficace. Et puis on doit aussi s'assurer que l'État a des personnels qui savent décrocher des accords et des contrats corrects avec le privé. On a besoin de plus de concurrence, pas moins.
Vous avez calculé, par exemple, combien ça coûterait de renationaliser le rail ?
Non, mais je crois que le Centre d'études politiques a estimé à 200 milliards d'euros le programme de renationalisation du Parti travailliste.
Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement conservateur commence à changer d'avis sur les nationalisations et le rôle du secteur public ?
J'ai l'impression qu'il y a une sorte de malaise au sein du Parti conservateur et au gouvernement en ce moment. Jeremy Corbyn a emmené le Parti travailliste tellement vers la gauche qu'eux aussi ont l'impression d'être obligés de dériver vers la gauche. Ils ne pourront pas renationaliser autant que le Parti travailliste veut le faire. Ils ne pourront jamais dépenser autant que le Parti travailliste veut dépenser. Politiquement, c'est une mauvaise stratégie. Et concrètement, selon moi, ce sont aussi de mauvaises mesures qui vont faire grimper les factures d'eau des gens, rendre l'eau de moins bonne qualité, provoquer plus d'accidents de train, de retard et toutes ces choses horribles qu'a connues le Royaume-Uni dans les années 70, quand l'État était si important et puissant.
Et quand vous voyez ce qui s'est passé à la prison de Birmingham qui a dû être renationalisée, nationaliser parce que ça se passait très mal. Vous ne vous dites pas, peut-être certaines choses ne doivent pas être privatisées.
Les prisons, c'est un sujet délicat, mais l'entreprise sous-traitante, G4S, gère aussi des prisons qui marchent très bien. Et on revient à l'idée qu'il faut de meilleurs appels d'offres et de meilleurs contrats. La prison, c'est l'un des exemples où peut-être il faudrait un peu plus d'argent sur le court terme avant d'améliorer la sous-traitance et les processus. Mais c'est l'exception, pas la règle. Je ne crois pas que c'est privé ou public. Je crois que la plupart des secteurs nationalisés profiteraient de plus d'implication du secteur privé. Pour moi, il faut plus de mécanismes de marché. Quand le secteur privé peut faire mieux que le public, il va quasiment toujours le faire. In ancient days, there was no day-to-day travel on trains, no national railway. By the time of the 1800s, when the mines provided for Great Britain's hunger for energy, they had to come up with a method to get stuff directly to where it was meant to be. So they designed lines to provide the mines in Tyneside with many connections effectively. Then inevitably many men and MPs objected to these...
Un extrait de la musique du film The Navigators de Ken Loach pour refermer ce grand reportage. Renationalisation en Grande-Bretagne, The State is Back, réalisé par Annie Brou.
Grand reportage, le magazine de la rédaction, Mathieu Laurent.
Il est 17h42 et jusqu'à 18h, nous vous proposons maintenant deux regards sur cette réalité britannique. Nous sommes donc en ligne avec Pauline Schnapper, professeure de civilisation britannique à l'Université Sorbonne Nouvelle, et avec nous en studio à mes côtés, Christophe Rameau, économiste à Paris 1 et puis membre du collectif des économistes atterrés. Première question à vous, Madame Schnapper, qu'est-ce qui a dysfonctionné au fond pour en arriver à pareille complexité, à pareille situation en Grande-Bretagne ?
Alors déjà, il faut quand même faire la différence entre des secteurs de l'économie qui ont eu des expériences très différentes, entre ce qu'on vient d'entendre sur les prisons, l'entreprise Carillion qui a fait faillite il y a un an, ou les trains. On est dans des cas de figure un peu différents. Disons que le point commun, c'est qu'il y a eu un grand programme de partenariat public-privé à partir des années 80 et continué dans les années 90, et y compris sous les gouvernements travaillistes de Tony Blair, qui reposait sur l'idée que faire intervenir le secteur privé pour gérer des services publics permettrait de faire des économies et permettrait surtout de faire des investissements que l'État n'avait pas les moyens de faire. Donc le privé allait pouvoir tout de suite mettre beaucoup d'argent dans les trains, par exemple, qui avaient souffert d'un sous-investissement chronique. Et bien sûr, l'État paierait sur des années, mais au total, il y avait l'idée que l'État serait quand même gagnant, puisque l'État et donc les contribuables et les consommateurs seraient gagnants parce que ils profiteraient d'un meilleur service plus rapidement que ce que l'État pourrait faire. Et puis, en fait, bon, les années ont passé et on a vu que, dans le cas de Carillion, par exemple, il semble que les accords qui ont été signés par le gouvernement ont été finalement mal négociés et ont finalement coûté extrêmement cher à l'État. Donc, ce sont faits vraiment au bénéfice de ces entreprises privées qui n'ont pas vraiment fournit le service attendu pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on peut revenir. Mais donc, ça explique en gros, très rapidement, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Le cas des chemins de fer est un peu différent. On peut y revenir.
On peut y revenir ultérieurement. Christophe Rameau, qu'est-ce qu'il y a ? Dysfonctionné, même question.
Il y a eu un rapport de la Cour des comptes, hein, l'équivalent de la Cour des comptes, le National Audit Office au Royaume-Uni, qui a dressé un constat accablant, hein, sur les partenariats publics-privés qui ont été surtout portés. C'est pas simplement Thatcher, hein, par Tony Blair. C'est vraiment le libéralisme.
Comme Pauline Schnapper vient de dire.
Tout à fait. Voilà, c'est vraiment la privatisation de certains services publics. C'est l'un des volets forts, hein, du néolibéralisme. Et alors pourquoi globalement, même si bien entendu il y a des nuances selon les secteurs, mais pourquoi globalement le bilan est accablant pour quatre raisons que je vais évoquer très rapidement. Premièrement, l'emprunt. L'un des arguments, c'était de dire la dette publique est trop élevée, donc on va laisser le privé s'endetter, on fait gonfler la dette privée de façon à ce que le privé prenne en charge et qu'on fasse pas gonfler les dettes publiques. Résultat des courses, le privé, il emprunte toujours à des taux plus élevés, d'accord, 2-3% en plus que l'État. Donc, Il y a ce surcoût-là. Et dire que l'État n'a pas les moyens d'emprunter par rapport à une entreprise privée, c'est complètement stupide. Hein, l'État a une force de frappe financière, bien entendu. Donc, pour des raisons idéologiques liées à l'idée que la dette privée, c'est toujours mieux que la dette publique, il y a ce premier surcoût. Deuxième surcoût, la rémunération des actionnaires. Le privé, il n'est pas bénévole, vous voyez, je veux dire, il n'est pas philanthrope dans ses activités, et donc il demande une rémunération. Troisième élément, les coûts de gestion. Ça a été évoqué à plusieurs reprises dans votre reportage. Hein, les coûts de bureaucratie. Hein, il faut établir des cahiers des charges extrêmement précis mais il n'y a pas besoin de traverser la Manche. Le Pentagone, hein, qu'on vient de construire en partenariat public-privé en France, hein, le ministère des Armées, si mes informations sont bonnes, il a fallu rajouter 5 000 euros sur certaines portes parce qu'on n'avait pas prévu d'œilleton. C'était pas prévu dans le cahier des charges. 5 000 euros pour un œilleton, vous voyez, sur certaines portes. Donc c'est, et puis des plus de 10 000 euros pour certaines photocopieuses qui n'étaient pas prévues dans certains espaces, dans certains couloirs. Enfin, des trucs.
C'est pas là le problème des grands travaux, enfin, des grands chantiers.
C'est-à-dire que le privé essaye à chaque fois, c'est de bonne guerre de son point de vue, vous voyez ce que je veux dire? Quand je dis le privé, attention, hein. C'est-à-dire que, on n'est pas simplement dans des logiques conceptuelles. Il y a les intérêts, hein. En France, il y a des très grosses entreprises du BTP, qui se gavent à travers ces partenariats, publics-privés. Et donc, dès qu'elles en ont l'opportunité, elles le font. Puis quatrième volet. Qui a été évoqué, quand vous avez évoqué la question des cantines, c'est très important. C'est, si vous voulez, quand les missions de service public sont prises en charge par le public directement, ça réduit les inégalités. Donc c'est plus juste, c'est-à-dire que les ouvriers, les employés...
Il y a plus d'égards pour le plus grand nombre, c'est
voilà,
ça que vous dites.
Les ouvriers, les employés sont un peu mieux payés dans le public, ils sont mieux respectés. Par contre, les cadres sont beaucoup moins bien payés dans le public, avec statut public, que dans le privé. Et donc, si vous voulez, la logique de basculement au privé, c'est que d'abord, on insécurise des catégories populaires, un peu plus, d'accord, le personnel de cantine, par exemple, hein, et puis, par ailleurs, les cadres, eux, sont beaucoup mieux payés, et finalement, il y a surcoût. Donc, il y a ces quatre grands surcoûts qui expliquent pourquoi, finalement, de mon point de vue, le partenariat public-privé, c'est à la fois plus injuste, ça creuse les inégalités, et c'est plus coûteux.
Marion Lourd.
Christophe Rameau, je me posais la question des fautes respectives, si j'ose dire, sur les dysfonctionnements, justement. Est-ce que l'État n'est pas aussi responsable du fait que tous ces dysfonctionnements sont possibles? Est-ce qu'il n'a pas failli dans son rôle de régulateur, d'investisseur? Est-ce que c'est aussi un État qui joue mal son rôle, l'échec d'un partenariat public-privé ou d'une délégation?
Le partenariat public-privé, c'est quand l'État décide de céder une entreprise qu'il prenait en charge précédemment pour la concéder au privé. Donc, qu'il soit en faute, mais moi, de mon point de vue, si vous voulez, je ne dis pas que l'État
est toujours bien... Il peut rester régulateur.
Non, mais je ne dis pas que l'État est toujours bien géré. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut être mal géré, il y a les services publics qui peuvent être mal gérés, donc il faut savoir, bien entendu, balayer, hein, devant sa porte. Mais si vous voulez, la logique libérale qui a consisté à déléguer, hein, des missions d'intérêt général au privé, mon point de vue, c'est que ce choix-là lui-même doit en amont être contesté. Et notamment parce que c'est le troisième coût que j'évoquais, le coût de gestion. Hein, c'est-à-dire qu'on est obligé d'établir des cahiers des charges. Alors, ça fait des recettes absolument extravagantes pour les cabinets qui écrivent ces cahiers des charges. Hein, je vous raconte pas. Hein, il y a des cabinets de conseil qui se sucrent largement au passage, hein, pour établir ces cahiers des charges. Mais si vous voulez, voilà, quand il y a une ampoule qui fonctionne plus dans le cadre d'une prison privée ou d'un collège privé ou d'un hôpital privé, regardez, il y avait l'hôpital Sud-Essonne. Hein, finalement, on est revenu. Hein, on avait lancé un partenariat public-privé. Finalement, on est revenu parce que on avait des choses absolument hallucinantes. Hein, c'est-à-dire que dans un hôpital, y compris pour des raisons technologiques, vous avez des avancées, etc. Sur les plateaux techniques, eh bien, le privé demandait à chaque changement, eh bien, demandait des sommes absolument astronomiques. Et donc, là, si vous voulez, je pense que c'est un vrai problème d'orientation.
Alors, Pauline Schnapper, vous qui sondez, étudiez les mutations du modèle britannique, est-ce qu'on là on n'a pas affaire, au fond, à une crise systémique et le début possiblement d'une nouvelle ère? On a bien dit que les partenariats publics-privés allaient arriver à leur terme et possiblement ne pas être reconduits.
Oui, en tout cas, il y a très clairement un changement dans la culture politique, disons, au sens large, qui est en train de se dérouler. Si on reprend, alors vraiment à très grands traits, de ce qui s'est passé depuis 45, on a eu une première époque qui a été marquée par les nationalisations après la Seconde Guerre mondiale, et ce qu'on a appelé le consensus de l'après-guerre, c'est-à-dire que des gouvernements conservateurs et travaillistes qui étaient d'accord en gros sur en tout cas les grands traits de la politique économique et sociale, qui prévoyaient donc un rôle important de l'État, des taux d'imposition élevés, etc. Un rôle important pour les syndicats, etc. Et puis il y a eu une deuxième phase
presque une révolution, en tout cas c'est ce qu'elle pensait, avec l'arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir en 79, qui est donc l'arrivée du néolibéralisme triomphant, disons, pendant toutes les années 80 et 90, et alors sous une forme atténuée, mais encore bien réelle, sous les gouvernements néo-travaillistes donc de Tony Blair et Gordon Brown, qui donc sont revenus sur ces nationalisations, ont privatisé et ont voulu, réduire le rôle de l'État et accroître la concurrence dans l'économie. Et puis avec la crise de 2008, donc depuis maintenant
10 ans,
je dirais peut-être pas 10 ans, parce que ça c'est plutôt depuis l'arrivée des conservateurs au pouvoir et les politiques d'austérité qui ont été imposées à partir de 2010, qui ont été particulièrement dures au Royaume-Uni, hein, par rapport à beaucoup d'autres pays, en tout cas pas par rapport à la France. On voit de nouveau donc des questionnements sur le rôle de l'État dans l'économie et une espèce de retour de bâton. On se demande si on n'a pas été quand même beaucoup trop loin. Non seulement dans ces privatisations, mais aussi plus généralement dans la dérégulation du marché du travail, enfin bon, tous les éléments importants du néolibéralisme britannique. Et donc le discours travailliste actuel de Corbyn et de ses alliés trouve un écho beaucoup plus favorable dans l'opinion publique que ce n'aurait été le cas il y a 10 ou 15 ans. Et c'est pas par hasard s'il a un tel succès aujourd'hui quand il parle, par exemple, de renationaliser les chemins de fer. Alors, maintenant, est-ce qu'il s'agit simplement d'une espèce d'effet de mode, de remise en question à la marge, ou est-ce qu'il va vraiment y avoir une transformation du modèle britannique? Ça, je serais bien en peine de vous le dire pour l'instant.
Alors, il est 17h52, vous écoutez Grand Reportage et France Culture. Le temps presse. Je souhaiterais qu'on en vienne au coût de ces possibles renationalisations. Vous avez déjà un peu entamé le sujet, Pauline Schnapper. Tout cela avec l'idée d'arriver à un point d'équilibre pour le contribuable. Alors, manifestement, pour le rail, si nos données sont justes, c'est pas si cher, parce que les franchises vont terminer bientôt d'exister. En revanche, pour l'eau, là, il y a des dizaines de milliards de livres possibles pour donc faire prendre un virage à cette activité. Christophe Rameau, est-ce que ces renationalisations sont, on va dire, possiblement chiffrables et finançables, si je puis dire, par l'État?
D'abord, il y a eu un rapport du Sénat en France en 2014 qui montre que les partenariats public-privé, c'est une véritable bombe à retardement. C'est-à-dire qu'on a fait des économies à court terme, mais on va être obligé de payer des loyers sur le long terme, et la somme de tout ça va être largement supérieure à ce qu'on aurait dû payer en payant les intérêts d'emprunt, etc. Je reviens à votre question. L'eau. Mais on a nationalisé. On a remunicipalisé. Ça s'est très bien passé en France. Paris, Nice. Vous voyez ce que je veux dire ? Paris, la gauche, Nice, la droite. Et le résultat est plutôt très probant. Je connais en particulier le cas de Paris. La qualité de l'eau. Tous les résultats sont au rendez-vous. Hein, tous les feux sont au vert, si tu veux. L'eau coule. Donc l'eau est plus claire, si vous voulez. Hein. Donc, si je peux me permettre, c'est-à-dire que en termes de coûts, il y a eu des économies de coûts tout à fait considérables qui ont été permises. En termes de qualité de l'eau, tout simplement parce que sur l'eau. Sur la santé, sur les prisons, enfin, est-ce que ce sont des domaines où il est légitime que des intérêts privés fassent du profit?
Vous parlez de monopole naturel, hein, vous qui étudiez l'État social.
Un tout petit point, si vous permettez,
oui,
d'ailleurs,
rapidement, si vous
de défense des PME. Dans le cadre des partenariats public-privé, on joue contre la concurrence. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des gros mastodontes qui peuvent capter ces marchés, et donc y compris, on empêche là pour le coup les PME de participer à une partie de la construction du collège, de l'hôpital, de la prison, etc.
Je suis navré de vous presser, mais Pauline Schnapper, un mot justement sur le coût de ces renationalisations au Royaume-Uni.
Alors, il serait certainement important. Moi, je suis pas économiste, je pourrais pas vous donner les détails, mais c'est un des points faibles, si on peut dire, du programme travailliste actuellement. C'est que les conservateurs ont beau jeu de dire, mais comment financerez-vous toutes ces réformes?
Y compris en forçant le trait de la part de la première ministre, qui dit des milliards de livres, je crois. Hein.
Oui, alors ça, je serais incapable de vous dire qui a raison dans ce débat-là, mais en tout cas, il pèse sur la crédibilité du programme travailliste, ça c'est clair, même si sur le fond, c'est un programme qui est plutôt populaire avec beaucoup de gens, que ce soit les chemins de fer ou les services publics, effectivement l'énergie, l'eau, mais aussi l'électricité, qui ont beaucoup augmenté depuis qu'elles ont été privatisées. Une bonne part de la population serait ravie que ce soit renationalisé, mais la question, c'est effectivement à quel prix.
Alors, Marion Lourd, une dernière question rapidement, Marion.
Oui, Pauline Schnapper, je voulais rebondir sur cette question. Est-ce que finalement, pour les travaillistes, le Brexit ne pourrait pas leur faciliter un peu la tâche dans leur programme de renationalisation, au sens où, par exemple, la libéralisation du rail, elle est voulue à l'échelle européenne?
Oui, tout à fait. On soupçonne d'ailleurs que ce soit, enfin, on soupçonne, non, c'est très clair. C'est une des raisons pour laquelle Jeremy Corbyn est si peu favorable à un deuxième référendum ou plus généralement au maintien dans l'Union européenne. C'est qu'il a l'idée que l'Union européenne empêcherait le Parti travailliste d'appliquer le programme qu'il souhaite, notamment des aides d'État aux entreprises, des subventions, des renationalisations, etc. Donc le Brexit, de ce point de vue-là, effectivement, arrange les affaires de Jeremy Corbyn et cette question explique pour une bonne partie les réticences du leadership actuel des travaillistes. Je dis bien du leadership, hein, pas des députés, pas des élus, ni des adhérents, mais du leadership vis-à-vis de l'Europe.
Bien, un tout dernier mot, Christophe Rameau, un mot conclusif sur Brexit favorable ou non à ces renationalisations.
Écoutez, ce qui est en jeu sans doute à travers le Brexit, c'est l'idée que pour le peuple britannique, hein, c'est l'idée qu'on doit maîtriser son destin. Et derrière la question des nationalisations, c'est aussi ça qui est en jeu.
Merci à vous, merci Pauline Schnapper d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez codirigé l'ouvrage suivant, Le Royaume-Uni au XXIe siècle, Mutation d'un modèle, ouvrage que vous avez codirigé avec Emmanuel Avril aux éditions Ofris. Christophe Rameau, vous avez participé, vous, au dernier ouvrage collectif des économistes atterrés, Macron, un mauvais tournant aux liens qui libèrent. Merci à vous également, bien sûr Marion Lourd, Renationalisation en Grande-Bretagne, State is Back, un reportage que vous venez de signer, réalisation Annie Bro à la technique, Emmanuel Morse-Duncan. Bien sûr, cette matière est à retrouver sur franceculture.fr.